Salut, c'est Grégory, et donc vous êtes sur Vlan, j'espère que vous allez bien, où que vous soyez, quoi que vous fassiez. Aujourd'hui, je suis ravi parce qu'on est en live, donc avec un public, et on est chez My Little Paris avec Aurélie Jean. Aurélie Jean, je l'ai déjà reçue sur ce podcast au tout début pour parler d'intelligence artificielle qui est son expertise. Et on va encore parler d'intelligence artificielle, mais cette fois-ci avec un angle qui est différent, qui est autour de l'éthique. L'éthique, ça me semble être un sujet extrêmement important quand on vit une révolution industrielle. On a parlé d'éthique avec Olympe de Gé sur le porno, on a parlé d'éthique avec Tariq Krim sur le slow content, et là on va parler d'éthique et de la donnée. Alors pourquoi ce sujet? Parce qu'en fait finalement il y a trois modèles dans le monde finalement de la gestion des données. Il y a un modèle américain où toutes les données sont vendues en gros, il y a un modèle chinois où toutes les données appartiennent à l'État, et puis il y a un modèle européen, mais voire plus spécifiquement français, où on essaie de protéger la donnée. Donc en fait, avec Aurélie, on va essayer de répondre à cette question qui est extrêmement complexe. C'est est-ce que intelligence artificielle et éthique peuvent coexister? Est-ce que ça peut fonctionner ensemble? Comment on peut avoir une éthique de la donnée et qu'est-ce que ça veut dire? Donc je vous laisse avec cette conversation qui, je l'espère, vous passionnera. Et je vous dis à très vite. Et comme d'habitude, Vlan, c'est parti. Donc bonjour à tous. Je suis avec Aurélie Jean, on est en live chez My Little Paris et on va parler, comme je l'ai dit dans l'introduction, d'intelligence artificielle et d'éthique. Alors Aurélie, je l'ai déjà reçue sur mon podcast.
Le quatrième podcast.
Voilà, exactement, le numéro 4. C'est une scientifique numéricienne, on s'est connue à New York il y a un petit moment. Et tu as créé une boîte qui s'appelle In Silico Veritas,
oui, exactement,
qui accompagne les marques dans leurs problématiques d'IA.
Voilà.
Et alors la première question que je me pose sur cette histoire d'éthique et d'IA, c'est que il y a beaucoup de gens qui essayent de faire peur avec les robots qui vont nous remplacer, la manière dont l'IA, enfin les données sont vendues aux États-Unis, la manière dont c'est utilisé en Chine en particulier par l'État. Est-ce que c'est pas deux mots qui sont complètement opposés, intelligence artificielle et éthique?
Alors, c'est une bonne question. Alors, merci de l'invitation et merci à My Little Paris de nous accueillir aujourd'hui. Donc, ce ne sont pas deux mots opposés, ce sont deux mots qui ont une existence indépendante aussi, puisque l'éthique peut être appliquée dans plein de domaines. On l'a vu dans la médecine, l'éthique politique. Et puis, l'IA, ça s'applique dans plein d'autres choses aussi, puisque c'est un mot-clé, hein, c'est un buzzword. C'est-à-dire que ça peut être, l'IA, c'est autant de l'automatisation, du machine learning, c'est pas mal de choses. Donc, ce qu'il faut, c'est composer ces deux mots pour donner un sens en fait à cette expression. Et en effet, il y a des pays en fait pour qui je pense pas qu'ils disent qu'ils n'ont pas d'éthique, mais pour autant ils ont des valeurs qui sont éloignées des nôtres, qu'on définit dans des contours éthiques par nos lois et notre morale. Et c'est sûrement le cas de la Chine qui, en effet, comme tu le dis, collecte en live en fait des données sur les citoyens pour définir ce qu'on appelle du social scoring, donc un score social qui va définir en fait le niveau de citoyenneté en fait de l'individu. Voilà.
On est vraiment dans les séries américaines.
Black Mirror, ouais.
Black Mirror.
Ouais.
C'est vraiment du pur Black Mirror. Et aux États-Unis. Mais alors, du coup, moi, j'ai la sensation qu'il y a vraiment trois modèles avec la capture des données. Il y a le modèle américain où, effectivement, où ils vendent tout. Donc voilà, tu veux faire ton ADN, bah, du coup, ils vont le vendre aux assurances, etc. Tu as le modèle chinois dont on vient de parler. Et puis, tu as un modèle un peu européen, très franco-français finalement, où on essaie de protéger les données. C'est lié à quoi, ça? Enfin,
Alors,
c'est culturel?
le modèle américain, c'est pas aussi libéral que ça. C'est plus compliqué que ça, en fait. On peut pas, c'est pas aussi. Le modèle chinois est beaucoup plus libéral que ça, en fait. On protège plus les données aux États-Unis qu'on imagine. Par contre, en France et plus généralement en Europe, en fait, on a fait avec le RGPD, donc c'est récemment, on est dans cette dynamique, en fait, de protéger davantage l'individu par rapport à sa data et cette propriété de data donc qu'on souhaite que l'individu ait. Et en particulier, on veut éviter les abus. Et par exemple, j'ai un exemple concret en fait pour se rendre compte pour le RGPD. Avant le RGPD, les grandes sociétés tech en fait qui collectaient de la data dont ils ont besoin pour faire tourner leurs algorithmes, en fait, ce qui était important, c'était où est-ce que le data était stocké. Donc, vu qu'elles étaient stockées sur leur serveur sur le territoire américain, elles devaient en fait être compliant, je ne sais pas comment on dit, enfin avec les règles, les lois américaines.
C'est ça.
Et en fait, avec le RGPD, ça a changé. C'est-à-dire, ce n'est pas la location physique, la localisation physique du serveur qui compte, c'est l'endroit où est la data est collectée. Et vu qu'elle est collectée en Europe, ils doivent en fait suivre les règles européennes du RGPD. Et ça a profondément changé beaucoup d'entreprises américaines, parce que moi, par exemple, j'ai travaillé 2 ans à Bloomberg, qui est une société de data financière, c'est le Google de la finance, hein, en quelque sorte, et d'économie. Bon, ils font plein de choses maintenant, mais l'origine, c'est ça. Donc, c'est une boîte tech, Bloomberg. Et bien, Bloomberg, en fait, on a été très impacté par le RGPD. Il a fallu réécrire des codes, il a fallu revoir des mécanismes, des algorithmes, parce que, justement, pour être en accord avec les lois du RGPD et d'autres lois financières qui sont arrivées, MiFID 2, dont on ne parle pas, mais qui sont aussi des règles sur le marché mondial de la data financière.
En fait, je vais juste répéter la question qui est que Facebook, comme ils sont aux États-Unis, ils n'ont pas été affectés par le RGPD, puisque le RGPD, c'est uniquement en Europe.
Alors moi, je voudrais connaître l'origine de ça, parce que ce qui compte maintenant, c'est le lieu de la collecte. Ce n'est pas le lieu de stockage. Donc ça change profondément en fait la manière de voir les choses. Et donc Facebook est touché comme toute autre boîte, même des petites boîtes. Hein, on parle des géants de la tech, mais tout le monde est touché. À partir du moment où vous travaillez avec le marché européen, à partir du moment où vous collectez de la data en Europe, à partir du moment où vous faites tourner vos algorithmes en Europe, parce que vous avez une clientèle européenne, vous êtes touché par le RGPD. Donc c'est pour ça que le RGPD, il est intéressant, parce qu'il ne fait pas que toucher l'Europe. Et le marché, enfin, il touche en fait toutes les entreprises qui ont un marché qui va au-delà de leurs frontières et qui ont un marché européen. Donc je pense. Après, tout n'est pas parfait dans le RGPD. Hein, j'ai pas vu tout en détail, mais je pense que c'est une première version. Et comme toute, moi je suis pas quelqu'un, je suis assez libérale, donc je ne crois pas que aux régulations. Je crois aussi en d'autres méthodes parallèles, alternatives. Mais voilà, il faut aussi des régulations de temps en temps. Et là, c'est une première itération et c'est un processus itératif. Et donc on va le faire évoluer en fonction aussi de l'expérience. C'est-à-dire qu'on va voir ce qui se fait aujourd'hui et comment... Parce que le RGPD, par exemple, est très contraignant pour des toutes petites boîtes. Et je pense qu'il aurait fallu peut-être faire plus la différence entre les grosses boîtes et les petites boîtes, parce que bah voilà, c'est compliqué d'être en accord avec les régulations sur des temps courts. Enfin, c'est pas facile, quoi.
Et alors, du coup, si on revient sur cette histoire d'éthique, on est obligé de reparler des biais. Je sais que les biais, oui, c'est un sujet qui te
passionne. Ah oui, c'est mon travail de recherche.
Voilà. Et des biais, il y en a beaucoup. Oui. Et biais et éthique et IA, c'est très, très lié. Oui. Je vais prendre un exemple hyper concret. Qui est, admettons, il y a un accident de voiture. Elle est autonome, donc ouais, c'est une IA qui la conduit. Il y a forcément un mort. Il y a un enfant devant, il y a une femme sur le côté, et admettons un homme de l'autre. Comment l'IA est choisie, en fait? Il y a forcément un biais. Enfin, comment elle choisit le mort?
Alors,
admettons.
Là, il y a le biais dans la décision. Mais là, pour le coup, j'ai envie de dire... le biais, je ne sais pas si vous savez ce que c'est, si les gens savent ce que c'est un biais algorithmique, mais en fait, vous avez vos biais cognitifs, c'est-à-dire que c'est des déformations de perception des cultures, des individus, des origines sociales, des gens, en règle générale. Et en fait, ces biais cognitifs, en fait, ont une influence sur les outils qu'on développe. Les scientifiques, et je dis souvent, c'est pas la faute des développeurs ni des scientifiques, c'est la faute de tout le monde. Parce qu'en fait, quand on développe un outil, on va penser à mettre des critères dans ces outils qui sont des critères propres à notre culture. Moi, par exemple, dans ma recherche, lorsque j'ai travaillé sur le traumatisme crânien, je devais collecter des informations sur les tailles de crâne d'humains pour avoir des idées de taille de cerveau, de taille d'os crânien, des choses comme ça. Et en fait, j'avais pensé à regarder des hommes, des femmes, différentes tranches d'âge, mais j'avais pas pensé à regarder l'origine ethnique. Parce que dans ma tête, j'ai fait cette sorte d'ethnocentricité, je ne sais pas comment on appelle ça, à Lévi-Strauss, où en fait, je me suis dit, l'homme blanc, c'est la référence, quoi. Non. Et donc, mon professeur m'a fait balayer d'autres ethnies, en particulier asiatiques, parce qu'il y a des fortes différences de morphologie. Mais voilà, donc on a tendance, et c'est pas méchant, mais il faut en prendre considération, on a des biais cognitifs qui vont indirectement ou directement rentrer dans ces algorithmes et ces data qu'on va choisir et qui, du coup, vont créer ce qu'on appelle des biais algorithmiques et, du coup, de la discrimination. Et pour redonner un exemple, et l'exemple de la voiture est très important parce qu'on ne sait pas le résoudre, hein, parce que même d'un point de vue éthique, si tu enlèves la partie IA, d'un point de vue éthique, par exemple, c'est compliqué. Et par exemple, un fort exemple de discrimination technologique, c'est les premiers algorithmes de reconnaissance faciale que vous pouvez utiliser sur l'iPhone 10 aujourd'hui. Les premiers algos ne reconnaissaient pas les peaux noires. Pourquoi ? Parce que les gens qui l'ont développé, peut-être étaient principalement composés de blancs, donc ils n'ont pas pensé à, d'une part, considérer les critères de contraste d'image liés aux peaux foncées, et d'autre part, peut-être aussi la data qui a été utilisée, c'est-à-dire l'ensemble des images de visages d'individus qui a été utilisée pour entraîner l'algorithme, était peut-être composée principalement d'images d'hommes personnes blanches. Donc, en fait, il faut prendre conscience de ça. pour pouvoir, d'une part, éviter de les introduire, d'autre part, de développer des moyens pour les choper, ces biais. Et moi, c'est pour ça que je dis, et tu sais, hein, Greg, hein, moi, je travaille beaucoup sur aussi travailler avec des gens comme toi, des marketeurs, parce que je pense que ce ne sont pas que les développeurs qui sont responsables, c'est les gens qui ont une idée, c'est les gens qui développent l'idée, c'est les gens qui marketent l'idée, c'est les gens qui la vendent, c'est les gens qui l'utilisent, parce que le biais, il se propage. Donc, il faut qu'on ait tous conscience de la possibilité d'introduction d'un biais pour qu'on puisse, à un moment donné, dire... Là, je pense qu'on peut mettre, on peut avoir un biais.
Mais justement, c'est un peu le problème de l'éthique, parce que l'éthique, c'est pas le bien ou le mal. L'éthique, c'est un point de vue.
Et oui, c'est un point de vue.
C'est complètement relatif. Hein.
Et c'est pas universel. Enfin, on aimerait que ce soit universel, mais en fait, c'est compliqué. Et tu as entièrement raison. Et c'est pour cela aussi. Donc moi, je travaille beaucoup sur l'éthique, mais après, je ne suis pas philosophe. Mais c'est d'ailleurs intéressant parce que je suis la première à dire que les scientifiques doivent redevenir philosophes aujourd'hui, parce qu'on a des problèmes d'éthique forts. Qu'on ne sait pas résoudre. Le cas de la voiture, je pense que c'est un cas compliqué. Et voilà. Et donc, pour moi, ce sont des sujets qui sont très, très compliqués aujourd'hui à résoudre. Mais il faut le connaître, il faut comprendre. Et je pense qu'il faut penser transversal, travailler dans l'interdisciplinarité, travailler avec des gens différents de nous, des médecins, des marketeurs, des politiques. Voilà,
donc, c'est en croisant l'information qu'on est plus éthique.
Alors, c'est pas en croisant l'information qu'on est plus éthique, mais croiser l'information est un moyen de prendre conscience des challenges dans les domaines dans lesquels on applique nos algorithmes. C'est-à-dire que, par exemple, quand tu fais de la médecine, moi j'ai fait 7 ans de médecine numérique, si je n'avais pas travaillé avec des médecins, des chirurgiens, je n'aurais pas réussi à faire des modèles pertinents, sans biais. Et je dis pas qu'il y en avait pas à la fin, mais en tout cas, j'essayais au mieux de m'éclairer grâce à ces experts. Et ça, c'est ce que je dis souvent. Enfin, on ne peut pas écrire un algo dans son coin. C'est compliqué. Il faut des gens pour nous éclairer, en fait. Donc l'éthique, pour moi, elle passe aussi par une communication et une interdisciplinarité forte.
Et du coup, c'est quoi un monde où l'intelligence artificielle, elle est éthique? Enfin, à quoi ça ressemble, finalement?
Parce que... Alors, c'est vaste question.
C'est vrai qu'on a des débats, on parlait tout à l'heure de Facebook, mais il y a des débats...
Est-ce qu'on peut dire... En fait, je pense qu'il y a plein de définitions. Parce que, bon, encore une fois, c'est un point de vue personnel. Je pense que c'est le respect des individus, c'est le respect des vies. Et dans cette idée-là, moi, j'avais... Tu le savais, hein, je t'en avais parlé, mais en juin dernier, donc j'ai travaillé pendant plusieurs mois avec un scientifique spécialiste du NLP, c'est l'analyse sémantique des textes, des langues, qui travaille en Californie, qui s'appelle Grégory Renard. Et en fait, on a travaillé avec lui sur un serment d'IA. Parce qu'en fait, on se posait souvent la question de ce qu'on faisait. On avait besoin de parler ensemble pour avancer de façon itérative, pour éviter les erreurs, en fait, de jugement et de décision dans nos algos. Et lui, en fait, il fait du machine learning profond, donc autant dire qu'il peut... je peux en parler après, mais il y a des choses qu'on ne comprend pas encore, donc voilà. Mais c'est vrai qu'on a fait ce serment, il s'appelle le serment d'Holberton Turing, et que vous pouvez trouver en français et en anglais sur Internet. Et c'est un serment qu'on a écrit, on l'a nommé en fait être un serment d'IA pour la protection de la vie. Voilà. C'est pas l'humain, c'est la vie. Donc c'est sous toutes ses formes et en fait ce qu'on a mis dedans, parce qu'encore une fois, quand je parlais de méthode alternative aux régulations, c'est ça. C'est-à-dire que régulation c'est bien, mais il faut aussi à côté aussi des guides de comportement pour je pense en fait être une sorte de déclencheur de conscience individuelle et que les gens puissent agir et se poser des questions sans penser à la loi derrière qui va les taper, mais au contraire à des principes moraux intéressants en tout cas à réfléchir. Et donc voilà, donc dedans on avait parlé de la protection de la data, la protection de ses pairs aussi, la protection des gens qu'on formait, qu'il fallait former des gens, qu'il fallait transmettre l'information, parce que je crois qu'il y a quelque chose aussi qu'on fait, nous les scientifiques, mais bon, c'est la compétitivité, elle est partout. Hein. Je veux dire, le temps nous manque et il faut qu'on transmette notre savoir aussi. Quoi.
Et justement, quand on parle de compétitivité, est-ce que tu penses que la France... Parce que la France, c'est un grand pays d'IA.
Oui.
Les gens ne le
mais
savent
ça
pas
s'explique.
Nécessairement.
Ils ne le savent pas, mais ça s'explique
mais
en plus.
Il y a beaucoup de chercheurs d'IA en France.
Et beaucoup de Français à l'étranger.
Exactement. Facebook, il me semble.
Yann Lequin.
Voilà, ouais. Exactement.
Celui qui dirige, en fait, le département d'informatique à Carnegie Mellon, qui est le plus gros département informatique des États-Unis et français. Voilà, donc il y a plein de choses comme ça qu'on ne sait pas.
Donc, le patron de l'IA de Facebook est français.
Voilà. Mais alors, beaucoup de français.
Est-ce qu'on peut être compétitif et éthique? Parce que par exemple, je vais prendre un exemple qui est décalé parce que ce n'est pas la même chose, mais tu parlais tout à l'heure de médecine. En Chine, ils ont le droit de faire des tests sur les grands singes qui leur permettent de faire des avancées de médecine hyper fortes, mais qui sont interdites dans tous les autres pays. Donc du coup, forcément, on est en retard. Nous, on considère que ce n'est pas éthique de faire ça. Eux, ils s'en foutent, en gros. Donc ils ont une avancée technologique sur la médecine. Est-ce que si on a une posture qui est plus éthique en France, est-ce qu'on ne va pas perdre de la compétitivité justement?
Alors la question, elle est légitime. À ce cas, j'ai deux éléments de réponse. Alors le premier, c'est marrant que tu dis ça parce que ce matin, j'étais au téléphone avec Georgie Courtois et Nina Goss, tu sais, que tu m'avais présenté, Nina, d'un cabinet d'avocats en fait qui s'intéresse à des problématiques d'IA d'un point de vue légal. Et justement, il m'a posé cette question et moi je lui ai dit, tu sais, quand tu regardes la Chine par exemple, même si tu n'as pas de limite éthique sur comment faire ta recherche, quelque part, on a beaucoup, à l'époque du clonage, je ne sais pas si vous vous souvenez, c'était il y a très longtemps, on avait réussi à cloner une brebis, je crois. Les gens disaient, la Chine va cloner des humains puisqu'ils n'ont pas de limite d'éthique. Bon, c'est pas encore arrivé. Voilà. Donc, je ne sais pas pourquoi, je n'irai pas porter de conclusion, mais juste réfléchissez à ça. Premièrement. Deuxièmement, pour moi, l'éthique, c'est une arme. C'est une arme pour les gens. C'est-à-dire que... le talon d'Achille des grands géants de la data, c'est nous, les individus. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on leur donne notre data et en échange d'utilisation d'outils parfois géniaux. Parce que moi, par exemple, Google, j'adore Google, quoi. Je veux dire, c'est mon meilleur ami au quotidien. Donc en fait, nous sommes le talon d'Achille. Donc partant de ce principe... il est bien évident qu'on a un droit de regard, on peut arrêter d'utiliser ces outils, on est beaucoup plus puissant qu'on imagine. Et moi, c'est ce que j'essaie de dire aux gens, et c'est pour ça qu'il faut qu'ils comprennent les mécanismes technologiques derrière ça. Qu'est-ce qui se passe quand on utilise Google, qu'est-ce qui se passe quand on utilise Facebook, Microsoft, tu vois, n'importe quel outil, je ne juge personne. Et en fait, moi, je pense que dans le futur, très proche, voire maintenant, les gens vont vouloir utiliser un outil avec un label d'éthique. Et je pense que la France et l'Europe a une arme énorme à jouer dans ce domaine, c'est-à-dire que au même titre que on va être amené à utiliser des produits parce qu'ils ont un label bio ou un label marché équitable parce qu'ils vont respecter en fait le travail des individus, pas de travail d'enfants, un travail payé correctement, avec un respect de la chaîne de production. Moi je pense qu'on va avoir aussi un label d'éthique qui fait que les gens vont pencher vers un outil qui va peut-être leur coûter 1 euro par mois. Peut-être, parce que moi je pense que rien n'est gratuit, mais ils vont avoir un outil qui va respecter leur vie privée, leur data. Et pour reprendre ça, je travaille avec Gaspard Koenig justement sur ces problématiques data, on en a beaucoup parlé, voilà. Et Gaspard, justement, lui, il dit, et en tout cas, je ne sais pas si je suis pour ou contre, mais j'avais signé la tribune avec lui parce que j'aimais bien cette idée, c'est-à-dire que pourquoi ne pas proposer un modèle où on puisse vendre notre data? Et ça veut dire quoi? Ça veut dire. Aujourd'hui, on n'a pas le choix. C'est-à-dire qu'on n'a pas le choix, le marché est unilatéral. Vous utilisez Google, vous n'avez pas le choix. On ne vous propose pas l'idée qui est on utilise vos data pour faciliter l'utilisation de l'outil, parce qu'on en a besoin quand même de ces data pour éviter que quand vous mettez, par exemple, dans mon cas à moi, le mot Python dans un moteur de recherche, je tombe sur le langage informatique et pas sur l'animal, parce qu'il aura compris que moi, je recherche plutôt des codes. Mais c'est vrai que je ne souhaite pas que cette data soit utilisée dans un but de pub, de marketing, par exemple. Et auquel cas, et j'aime beaucoup le marketing, tu sais. Et auquel cas, donc, j'aimerais qu'on me propose au moins de me dire, Aurélie Jean, pour 3 euros par mois, vous pouvez utiliser Google tant d'heures par mois et on utilisera vos data pour vous faciliter l'usage de l'outil, mais pas à des fins commerciales, par exemple. C'est ça que j'ai envie qu'on se pose la question d'élargir le champ des possibles pour pouvoir prendre de meilleures décisions. Donc moi, l'éthique, pour moi, c'est, je pense au contraire que c'est une arme pour la France et l'Europe. Il faut qu'on ait conscience de ça pour pouvoir justement concurrencer le marché de pays qui ont peut-être une éthique différente de la nôtre.
Voilà. Et du coup, est-ce que tu ne crois pas que la France pourrait être une sorte de terre d'accueil des gens qui veulent protéger leurs data?
J'adore ça. Qu'en fait, j'ai jamais pensé à ça.
Mais parce que, tu vois, tu pourrais penser aux légionnaires. Les légionnaires, c'est exactement ça. C'est-à-dire que quand tu deviens légionnaire, on efface toutes tes données personnelles. Et on pourrait imaginer que la France, on n'a pas reçu Snowden ou voilà, mais on pourrait imaginer que la France devienne une sorte de terre d'accueil des gens qui veulent protéger leurs data.
Oui, non, je n'avais jamais. Mais et en fait, en cela, si tu veux dématérialiser la chose, pour moi, c'est bah, par exemple d'utiliser un outil avec un label européen parce que voilà, tu habites, je ne sais pas moi, en Argentine, je dis n'importe quoi, et tu veux utiliser un outil, ben, tu as le choix entre un outil chinois ou français, et je dis, je ne m'attaque pas aux Chinois, hein, je donne un exemple comme ça, je m'excuse, mais, et en fait, bah, tu te dis, bah, je vais prendre l'outil français, même s'il me coûte 2 euros par mois, mais au moins, voilà. Je pense qu'on va tendre vers ça. Et quelque part, il y a eu cette transformation côté. Je parle du bio parce qu'on a eu cette transformation côté nourriture. Mmh. Voilà, je pense qu'on mange moins. On préfère manger moins et manger mieux. Bah, pourquoi pas faire ça avec nos pratiques, nos usages numériques. Enfin, je pense.
La dernière question que je voulais poser avant le fameux volant, c'est ce cadre législatif. Qui c'est qui doit l'écrire? Parce qu'en fait.
Ah, merci pour cette question.
Parce qu'en fait, ça sanctionne des valeurs. Parce que, comme on a dit, l'éthique, c'est un point de vue. Donc, c'est pas du bien ou du mal, c'est des points de vue. Qui doit écrire ça? C'est des philosophes?
Donc, législation, il y a loi. Donc, ce sont des juristes, donc des avocats, bien évidemment. Et je dis ça parce qu'encore une fois, donc, je travaille avec Georges Joy et Nina, que j'apprécie beaucoup, et qui sont donc des avocats qui réfléchissent fortement à ces problématiques. Et qui, du coup, qu'est-ce qu'ils font? Bah, ils vont voir des experts de l'IA pour en parler. Donc, on en parle ensemble. Donc l'idée, c'est il faut des législateurs, bien évidemment, donc des avocats, des gens qui connaissent les lois, parce que c'est compliqué d'écrire une loi. Enfin, c'est pas simple. Après, donc il y a ça, et puis il y a aussi des experts de la discipline. Donc je pense qu'il faut des gens en IA, il faut des philosophes, il faut pas mal de monde. Et je dis ça parce que on voit aussi en parallèle des législateurs, enfin des avocats qui sortent des textes qui, à mon sens, enfin ou qui proposent en fait des écoles de pensée qui, à mon sens, sont dangereuses. Je veux pas le citer, mais je vais le citer quand même. L'avocat Bensoussan, en fait, et propose fortement de développer une personnalité juridique pour le robot. Ça n'a pas de sens. Ça n'a vraiment pas de sens. Parce qu'il stipule que l'IA forte va venir et que donc l'IA forte, c'est une autonomie complète de la machine, une prise de conscience de la machine, c'est un point de singularité en fait qu'on passe.
C'est Westworld.
Pardon ?
C'est Westworld.
Ouais, voilà, exactement. Et en fait, pour moi, ça n'a pas de sens. Donc, je vais être contente parce que j'ai un panel avec lui donc vendredi, donc je suis ravie de pouvoir en discuter avec lui. et c'est vrai que je pense que ça n'a pas de sens. Je pense que c'est dangereux de dire ça parce que ça a des implications énormes. Voilà, et ça n'a pas de sens technologiquement, ça n'a pas de sens juridiquement. Et que j'ai envie de dire, je suis la première à dire que les lois sont par nature conservatives parce qu'elles arrivent en retard des pratiques sociales. Et que parfois, c'est bien qu'elles arrivent un peu en avance. Mais je suis aussi la première à dire que, comme dit Georges Courtois, qu'il faut se projeter dans le futur, mais il ne faut pas que cette projection nous empêche de voir vraiment et nous bloque dans le présent. Et je pense que cette manière-là de voir peut nous bloquer dans le présent parce qu'elle peut nous empêcher d'innover.
Mais d'ailleurs, pour revenir au tout début de notre conversation, Elon Musk, il est très alarmiste hein, sur l'IA quand même.
Oui, oui c'est vrai. Alors, disons que c'est toujours la même chose. Je veux dire, quand tu développes ces outils, tu te rends compte de leur pouvoir. Et moi-même, je suis la première à dire, attention, on peut faire beaucoup de choses avec ces outils, au même titre qu'on peut faire beaucoup de choses avec le clonage, encore une fois. Enfin, faut quand même, voilà. Et qu'en fait, et donc moi, ce que je dis, c'est que j'aime pas les discours alarmants, parce qu'en fait, je pense que c'est dangereux, parce que ça crée des rejets épidermiques chez les gens qui ne comprennent pas les tenants et les aboutissants du domaine. Et c'est d'ailleurs, c'est ce qui se fait avec le clonage. Enfin, les gens ont un rejet épidermique. Et donc, ça me fait marrer parce que maintenant tu peux cloner ton animal aux États-Unis et je trouve ça très étrange, mais bon, bref, passons. Je vous dis ça parce que je pense que ce qui est important, c'est certes de dire attention, parce qu'il faut le dire, mais je pense que si on dit que ça, en fait, on fait rien avancer. Et Elon Musk fait avancer les choses en faisant de la recherche dans le domaine. Et je pense qu'il y a un autre domaine, et je ne sais pas assez ce qu'il fait, mais je suis sûre qu'il fait des choses qui est le domaine de l'éducation. Et l'éducation, c'est autant l'éducation des plus jeunes que des moins jeunes. Parce que, encore une fois, vous avez un outil que vous devez comprendre. Et comme je dis souvent, enfin, c'est la première fois de l'histoire de l'humanité que nos dirigeants économiques et politiques étatiques de nos pays, en fait, ne comprennent pas la révolution en cours. C'est-à-dire que, lors de la révolution industrielle, vous leviez le capot d'une voiture et vous compreniez. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, c'était tangible. Aujourd'hui, on est face à une révolution qui est très compliquée, qui est très abstraite et qui donc a besoin d'intermédiaires et de traductions en continu pour pouvoir comprendre les mécanismes. Et moi, je crois que c'est notre devoir à nous, scientifiques, de le faire et qu'il faut d'ailleurs, alors après on peut rentrer dans plein de débats, hein, mais moi je pense qu'il faut, remettre en avant, réévaluer en fait cet apport vers le peuple, vers les gens, en fait cet apport scientifique qui n'est pas pris en considération aujourd'hui dans la qualité d'un chercheur. Voilà, je le dis parce que je pense que c'est important. C'est-à-dire que dans votre travail de recherche, on ne regarde pas si vous pouvez écrire des articles dans des magazines. Enfin, moi, j'écris dans Le Point, par exemple, sur des sujets scientifiques et techniques. Bon, bah, dans ma carrière de recherche, ça ne me servira pas. Et c'est dommage, en fait. Voilà. Bon.
On va ouvrir en question.
Si vous voulez donner votre nom avant, enfin, comme vous voulez, votre prénom, moi, je sache.
Je m'appelle Christine. Merci pour la qualité des interventions. C'est passionnant. Donc, je suis une néophyte et j'avais deux questions. Une d'ordre général et une très précise, parce que je travaille dans le sport. La première, c'est est-ce que le label éthique numérique, est-ce que c'est quelque chose qui est en cours?
Oui.
Et je voulais que tu me répondes à cette question-là. La deuxième, elle était très spécifique. Je travaille dans le sport et en particulier, on a quelques accroches dans l'équitation. Quand je t'entends dire qu'aux États-Unis, on peut cloner un animal domestique.
Je ne sais pas si à l'échelle fédérale ou par État, ça je ne sais pas, mais j'ai vu ça quelque part, qu'on pouvait cloner. C'est-à-dire que, par exemple, si tu as un chien qui meurt, tu peux l'avoir en continu, ce que je trouve très, très perturbant, mais bon, passons.
Est-ce que tu peux cloner aujourd'hui un cheval de course et transmettre les Alors, caractéristiques
Très bonne question. Et là, quand tu me dis ça, le premier truc auquel je réfléchis, c'est le cheval de course, son but, c'est un business. Donc, ce n'est pas un animal domestique. Donc, est-ce que, tu vois, donc ça implique d'autres choses, je ne pourrais pas dire, je ne sais pas. Et il y a un autre sujet dont on n'a pas parlé d'éthique, mais c'est les robots sexuels aussi. Hein. Enfin, je veux dire, il y a plein de choses, je ne sais pas pourquoi je pense à ça, mais.
j'ai fait un épisode sur l'éthique du porno, d'ailleurs.
Écoute, ah ouais, ouais, mais parce que, non, parce que j'ai lu un article ce matin, enfin, je ne vais pas en parler de ça, bref, parce que moi je pourrais parler pendant des heures de ça, donc c'est pas un problème, quoi. Mais alors, oui, pour les chevaux, moi, ma première question c'est, c'est pas le même but, tu vois. Quand tu veux cloner ton chien, c'est parce que tu veux retrouver ton chien. Même si moi, je pense que ton chien, il n'aura pas la même personnalité parce qu'il va grandir, il va dans des conditions différentes. Donc, tu ne vas jamais retrouver le même chien. Mais bon, ça, c'est... Après, pour l'animal de course, on s'entend bien, il y a quand même une course. Donc, il y a il y a un but business quelque part derrière ça. Donc, c'est un peu différent encore. Et puis, je ne connais pas les lois. Je ne sais pas si c'est à l'échelle fédérale, à l'échelle par État. Tu vois, c'est quelque chose sur lequel je devrais m'enseigner avant d'en parler.
Mais techniquement, par exemple, on pourrait le faire.
Oui, ouais. Mais je pense que techniquement, on peut faire beaucoup de choses, en fait. Hein. Il faut s'en rendre compte. Hein. Après, le clonage, c'est pas ma spécialité, donc je me permettrai pas de parler. Hein,
Et donc sur la première question, tu sais, oui. Sur un moteur de recherche avec un label éthique, ça c'est quelque chose qui est en cours de développement.
Alors oui, alors il y a des labels éthiques. Le CNIL, en fait, en France, essaie de pousser vers justement un label. Et je pense que c'est une forte valeur ajoutée pour la France. Enfin, vraiment, on peut penser que ça va bloquer l'innovation, mais moi, ce qui bloque l'innovation, c'est les régulations qui sont faites par les mauvaises personnes. Et c'est trop de régulation parfois. Mais là, je pense qu'un label, c'est pas une régulation. Enfin, c'est un label. C'est plutôt quelque chose qui va pousser les gens vers le haut. Après, tu parlais du moteur de recherche. Alors, il y a des outils qui existent.
Il y a Quant.
Hein. Voilà, Quant, c'est une entreprise française. Je connais le PDG, Eric Léandry. Voilà. Après, voilà, moi, par exemple, et Quant, c'est un super outil. Mais par exemple, je connais pas exactement la politique vraiment derrière ça. Parce que, par exemple, moi, quand je rentre le mot Python, bah, il me sort tout le temps l'animal. Donc, il apprend pas non plus mes données, j'ai l'impression. Mais peut-être parce que j'ai pas insisté.
Ils ont fait évoluer ça.
Ils ont fait évoluer, voilà. Donc,
ils utilisent la data pour toi, mais pas pour la vendre.
Ça, c'est bien. Parce qu'il faut quand même utiliser la data. De se dire qu'on veut pas collecter du tout la donnée, c'est idiot. Enfin, si cette donnée, elle sert à innover dans sa définition première, qui est d'améliorer la qualité de vie de l'humain. Moi, je préfère qu'on me sorte le code que l'animal. Enfin, voilà. Après, il y a plein d'outils. Il y a des outils, par exemple, de mapping, enfin de comme Google Maps, mais qui sont des outils en fait qui ne vous géolocalisent pas quand vous n'utilisez pas l'app, par exemple, voilà, ce qui n'est pas le cas de d'autres applications. Enfin, il y a des choses qui existent en fait, et voilà. Donc, et je pense qu'on va se mettre de plus en plus au courant de ce qui existe, de qu'est-ce que la data. Qu'est-ce que c'est, là, je t'ai entendu dire, Greg, le droit à l'oubli, l'effacement des données. Les gens ne savent pas comment on efface une donnée. Or, il y a plusieurs moyens d'effacer la donnée. Et selon la manière dont on efface la donnée existe toujours, ou pas. Voilà. Parce qu'en fait, mais c'est pas, je veux dire, ce que je dis là, c'est pas sorcier. Hein, c'est quand vous avez une donnée dans un ordinateur, il est stocké dans des cases mémoire. Et vous avez une adresse qui pointe vers cette case mémoire pour dire la donnée, elle est dans telle case mémoire. Grosso modo, je le fais un peu grossier là. Mais... Et ce qui se passe, c'est que quand vous effacez la donnée, c'est soit vous effacez le contenu de la case mémoire et vous mettez à la... Il y a toujours quelque chose dans la case mémoire, donc on met crap, des chiffres, peu importe. Soit on coupe l'adresse qui va vers la case mémoire. Mais en fait, le fait de couper l'adresse, il y a toujours le contenu dans la case mémoire. C'est la manière la plus courante d'effacer de la donnée parce que c'est la moins coûteuse. Je veux dire, moi, je le fais aussi. Hein, c'est la moins coûteuse. Sauf que, par exemple, si sur votre ordinateur, si vous effacez un fichier, no stress. Il existe toujours. C'est juste que vous voyez ce que je veux dire. Donc, en fait, ce que je veux dire, c'est qu'il faudrait une éducation plus claire, plus massive des gens pour qu'ils comprennent et que lorsqu'on leur dit on efface vos données, ils se disent pas « Ah, super !» Non, en fait, qu'est-ce que ça veut dire? Et moi, si demain on me dit « Oui, quand on efface ces données, il faut qu'on remplace ce qu'il y a dans les cases mémoire », ok, on va faire ça. Ce sera plus coûteux, voilà, mais c'est... Voilà. Plus coûteux au sens, ça demande des opérations supplémentaires, ça demande du temps CPU, des choses comme ça. Enfin de... Mais ce que je veux dire, c'est qu'il faut juste que les gens comprennent, en fait. Et moi, je pense que les dirigeants économiques et étatiques de nos pays et les individus, les citoyens, doivent comprendre. C'est tout ça.
D'ailleurs, on parle souvent de... on arrête ton profil, en fait.
On
stoppe ton profil, on dit pas on supprime tes données, on dit on va désactiver ton profil.
Ah oui, oui, par exemple, oui, voilà.
Désactiver le profil, c'est pas supprimer les données, c'est deux choses différentes.
Ça veut dire quoi désactiver un profil? Ouais.
Bien sûr.
Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Ouais, ouais.
Alors du coup, moi j'en ai une.
Vas-y,
la dernière,
vas-y, Greg,
non,
vas-y.
Mais la dernière qui est...
Surtout qu'on en parle souvent tous les deux, donc...
La dernière qui est ce podcast... Non, mais ce podcast,
en fait, il faudrait faire un podcast, on compte... Ah oui, j'ai oublié,
oui, moi j'ai cette question finale.
Oh là là, mais il y a trop de vlans là.
À quoi tu mettrais un
vlan? À quoi je vais mettre un vlan? Moi je mettrais un vlan, en fait, à tous les gens, en fait, qui se permettent de parler d'IA. Parler d'IA, tout le monde a le droit d'en parler, parce que je pense que c'est un problème général, sociétal. Mais je pense qu'on n'a pas le droit de donner des avis tranchés et sous un cachet d'experts qu'on n'a pas. Et je vois beaucoup de gens, en fait, se cacher derrière une expertise qu'ils n'ont pas et tirer des conclusions fortes, comme de dire que, et je ne cite pas de nom, hein, promis, comme de dire que
droit, hein.
Dans 5 ans, il n'y aura plus de job. Il n'y aura plus de job en France. Et certains sont des amis en plus. Hein, donc voilà, on ne peut pas dire ça. Et si on le dit, il faut des arguments. Et voilà. Et donc moi, ce que je dis, c'est que c'est un vlan à tous les gens qui se donnent une expertise qu'ils n'ont pas. Et moi-même, je me limite. Par exemple, quand on me pose des questions d'éthique légale, je dis je ne suis pas avocate. Voilà. Et je me permets de le dire parce que je ne peux pas répondre à tout et je pense que c'est important de le dire. Voilà. Et d'où l'interdisciplinarité de travailler main dans la main.
Merci
voilà.
Beaucoup. Merci à tous ou à toutes.
Merci.
Merci
d'avoir écouté Vlan. Si vous avez aimé l'émission, vous pouvez le dire avec des étoiles, 5 de préférence sur iTunes et le partager avec vos amis ou vos collègues. Je suis Grégory Pouy, vous pouvez me retrouver sur Twitter et LinkedIn sous le pseudo Greg from Paris. N'hésitez pas à me remonter vos remarques, vos questions, mais aussi les invités que vous aimeriez entendre.